Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Praud, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, l'histoire d'une navigatrice chevronnée 12e du dernier Vendée Globe, mais probablement privée du prochain à cause de sa maternité. Clarisse Crémer est lâchée par son sponsor Banque Populaire, qui craint que la jeune femme, absente quelques mois à cause de sa grossesse, ne puisse pas se qualifier pour le départ du prochain Tour du Monde à la voile en solitaire, car le règlement de la course a changé. La ministre des Sports s'en mêle, pointé du doigt lui aussi. Le président du Vendée Globe, Alain Leboeuf, s'explique sur RTL. Il sera notre invité à 12h40. Dans l'actualité également, les suites de l'enquête après le meurtre de Siem, 18 ans, une autopsie est réalisée aujourd'hui. Elle permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur les circonstances de la mort de la jeune femme que son meurtrier présumé explique par une dispute amoureuse. À propos de ce meurtre, comme le pense Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pensez-vous que la violence est de plus en plus forte dans notre société? C'est la question du jour sur notre site rtl.fr. Dans l'actualité, également un pont de la mafia italienne reconverti en pizzaiolo stéphanois, un ballon espion au-dessus des États-Unis, espionnage chinois sur le Pentagone. De quoi parle-t-on exactement? On vous dit tout après le journal.
Vous avez peut-être vu et écouté hier le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Édouard Philippe, qui s'est longuement expliqué sur l'alopécie dont il est atteint. Vous pourrez donner vos réactions à l'antenne.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous, c'est un symbole de l'érosion de nos côtes, de l'avancée de l'océan. À Soulac-sur-Mer, l'immeuble Le Signal commence à être détruit aujourd'hui. À 12h20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Les vacances scolaires commencent ce soir pour la zone A. Où partir l'hiver? À quel prix? Car il n'y a pas que le ski, on vous dira tout. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, ce sera avec Salvatore Adamo.
Tous ces sujets, vous l'aurez compris, vous pourrez donner votre avis entre 13h et 14h30.
Vous êtes pressé de les retrouver, vos auditeurs.
Les auditeurs ont la parole.
La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
C'est vous qui nous informez aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Le coup classique, grisaille au nord, soleil au sud.
Vous développerez ça après le journal. Merci beaucoup Valérie.
RTL midi.
Un mafieux reconverti en pizzaiolo à Saint-Étienne. Un homme de 63 ans a été interpellé hier. Il avait refait sa vie en France, Frédéric Perruche, mais était condamné à la prison à vie en Italie. Et c'est en feuilletant la presse française que les enquêteurs italiens ont retrouvé sa trace.
Exactement, c'est une simple photo publiée par le journal Le Progrès où l'on voit Edgar Gdo, barbe et cheveux gris, petites lunettes, pizza en main, qui a permis aux limiers de la police italienne de retrouver sa trace en juillet 2021. Une simple photo a donc suffi pour remonter la piste de tueur de la mafia calabraise, en fuite depuis 17 ans, condamné en son absence pour un double homicide en 1991. Aujourd'hui, c'est un homme ordinaire, en apparence, selon Philippe Martinez, l'agent immobilier qui lui a vendu son petit commerce, c'était en 2020.
Quelqu'un de très sympathique, un petit monsieur déterminé qui cherchait, ça faisait une bonne année, qui cherchait un fonds de commerce sur Saint-Étienne en restaurant pizzeria. Il avait le look un petit peu avec du recul de Joe Dalton, vous voyez, le menton un petit peu en galoche, ce genre de personnage. Voilà, mais assez discret, on ne connaissait pas grand-chose de lui, quoi. C'est un petit peu le profil classique d'une personne qui a travaillé pendant des années comme employé et qui se dit, je vais me mettre à mon compte, j'ai un petit capital devant moi, les banques me font confiance. Et voilà, quoi, c'est monsieur tout le monde, vraiment.
Voilà, monsieur tout le monde. Aujourd'hui, Edgardo Greco est en détention en France dans l'attente de son extradition en Italie.
Frédéric Perruche à Saint-Étienne pour RTL.
Au lendemain de la découverte du corps de Siem, une autopsie a lieu aujourd'hui.
Elle permettra peut-être de mieux comprendre comment cette jeune femme de 18 ans a été tuée. L'homme de 39 ans, bien connu de la justice, qui a reconnu le meurtre, a expliqué l'avoir étouffé lors d'une dispute dans le cadre d'une relation amoureuse. Relation niée par l'avocat de la famille de la victime. Un drame sur lequel est revenu Gérald Darmanin sur RTL, le ministre de l'Intérieur, qui réagissait pour la première fois à cette affaire.
C'est absolument terrible. Bon, il y a une enquête judiciaire qui est confiée à la gendarmerie nationale. Et on voit bien que, je l'ai dit quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, mais nourri de mes expériences d'élu local, il y a une violence de plus en plus forte dans la société, personne ne peut le nier. Et plusieurs m'ont traité de naïf, au mauvais sens du terme, et parfois disant que je jetais de l'huile sur le feu alors que je ne faisais que dénoncer ce qui se passait. Encore une fois, j'essaie de parler franchement.
Gérald Darmanin avec Mohamed Bouafsi, un entretien retrouvé en longueur dans Focus dimanche donc à partir de 13h.
RTL Midi.
La réforme des retraites à présent, et si Elisabeth Borne martèle qu'elle est indispensable, la Première ministre assure qu'elle n'envisage pas de passage en force à l'Assemblée. C'est très intéressant peut-être.
Sûrement même. Pas de 49-3, donc en tout cas dans l'immédiat. C'est ce qu'elle a indiqué hier soir sur France 2, alors que le texte arrive justement dans l'hémicycle lundi pour 2 semaines de discussion qui s'annonce acharnée. Bonjour Thomas Desprez.
Bonjour.
Illustration de ce qui attend la majorité, plus de 20 000 amendements ont été déposés. Les députés n'ont pas manqué d'imagination.
Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. 20 000 amendements, dont près de 13 000 rien que pour la France insoumise. Des amendements sur le fond pour ramener l'âge de départ à 60 notamment, mais aussi sur la forme. On retrouve de très nombreux amendements qui n'ont qu'un seul but, ralentir les débats de la réforme. Prenez cet amendement présenté par un député insoumis. Il propose que cette réforme ne s'applique pas aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un autre un peu plus loin, que les habitants de Guadeloupe soient exonérés. Quelques amendements plus tard, un autre député propose que le texte ne s'applique pas aux infirmiers ou aux jardiniers. Bref, au groupe insoumis, on explique que tous ne seront pas défendus, mais que ça permet d'être maître du temps et de mener les débats comme ils l'entendent.
Ça, c'est pour les amendements de l'opposition, mais il y en a aussi du côté de la majorité.
Oui, Renaissance propose par exemple des pistes pour améliorer le sort des femmes, notamment la prise en compte du bénévolat dans le calcul de la retraite. De son côté, le Modem vient mettre un petit caillou dans la chaussure du gouvernement. Les amis de François Bayrou proposent une clause de revoyure en 2027, à la fin du quinquennat. Alors, l'âge de départ sera à 63 ans pour savoir à ce moment-là s'il faut vraiment ou pas aller jusqu'à 64 ans.
Et quand je disais que c'était intéressant de ne pas parler du 49-3, ça serait peut-être une manière pour le gouvernement de ne pas retirer sa proposition, mais si elle n'était pas votée par l'Assemblée nationale, de passer à autre chose.
Oui, alors il y a quand même une clause qui fait avec ce projet de loi de finances qu'il sera de toute façon adopté au terme du temps réglementaire.
Merci beaucoup Thomas Desprez. Une provocation, c'est comme ça que les médecins libéraux qui réclament depuis des mois déjà la revalorisation de la consultation ont reçu la proposition de la Sécurité sociale hier, proposition d'augmenter d'1,50€ seulement cette consultation, de la passer donc en clair de 25 à 26,50€, loin des 30€ espérés par MG France, le syndicat majoritaire. Margot Bayard, sa première vice-présidente.
Ce n'est pas entendable, ça ne correspond même pas au rattrapage de l'inflation. Nous sommes, je dirais, dégoûtés par cette proposition. Nous avions mis un fil rouge qui était 30€ sans condition. Voilà. Donc pour nous, c'est une proposition qui n'en est pas une. Il y a des choses qui peuvent s'entendre, pas pour la consultation de base. Donc vraiment très très déçus et je dirais même on se sent un peu insultés.
Je t'en prie.
Propos recueillis pour RTL par Nathan Bocard. La météo, on vous retrouve. Valérie Quintin, vous nous avez dit un temps très classique. Détaillez-nous ça un peu, s'il vous plaît.
Alors, pour les nuages, ça concerne même les deux tiers nord du pays, puisqu'on va tirer un trait entre La Rochelle et Lons-le-Saunier. Donc, ça fait quand même une grosse partie du territoire. On n'a pas de mauvais temps, mais beaucoup de nuages bas, quelques éclaircies aussi ou là, 2-3 gouttes de pluie principalement dans le nord-est et au sud. Donc là, on a un temps très, très ensoleillé. Il y a encore un petit peu de grisaille actuellement en Auvergne, mais ça va se lever. En revanche, beaucoup, beaucoup de mistral. Un mistral très fort à 70 km/h qui va souffler encore tout l'après-midi entre Montélimar et Avignon. Reste que les températures sont plutôt douces. Globalement, 10 degrés prévus à Orléans, à Strasbourg, à Paris cet après-midi, 11 pour Abbeville et Ambérieu, 12 degrés à Caen et 15 degrés à Nîmes.
Merci Valérie.
RTL Midi, un jour chez vous.
Chaque jour, l'info plus près de vous. Où partons-nous, Céline ?
À Soulac-sur-Mer, au nord de la Gironde, retrouvez Philippe de Maria. Bonjour Philippe.
Bonjour Céline, bonjour Pascal.
Soulac-sur-Mer, ou un monument emblématique, l'immeuble d'habitation Le Signal, construit dans les années 60, commence à être détruit aujourd'hui. Philippe, il est victime en fait de l'avancée de l'océan.
Oui, l'immeuble en haut de la dune a été entièrement dépioté, désamianté. Ne reste que la carcasse de ces deux blocs de 4 étages. Et quand Daniel et son mari ont acheté ici, ils avaient la quarantaine. Aujourd'hui retraités, ils ont tenu à être présents ce matin.
Bah, c'était un 3 pièces. Hein. Il y avait une cuisine, un salon qui donnait directement sur la mer. C'est tout à fait en haut, là, au 4e étage. Bien sûr, on avait un spectacle féerique.
L'immeuble va être détruit. On voit les machines là, qui commencent, qui sont là, qui se préparent.
On a le cœur gros et on peut pas dire qu'on peut pas rester. Le cauchemar, il a quand même duré 9 ans. Hein. On s'est battu, ça a été difficile. Moi, j'ai vraiment la rage.
Mais les propriétaires ont été indemnisés, Philippe. Alors pourquoi y a-t-il encore une telle colère, la rage, disait cette dame. Ouais.
Exactement, Pascal. Alors, il faut expliquer qu'en 2014, quand l'immeuble est évacué, les habitants pensent qu'ils vont revenir chez eux. Une fois les tempêtes passées avec des ouvrages de protection vont sauver le signal, ils seront très largement déçus. Non seulement interdiction leur est faite de réintégrer leur appart, mais en plus on leur dit qu'ils ne seront pas indemnisés. Et il faudra donc 9 ans de bataille juridique pour que l'État débloque une enveloppe de 7 millions d'euros. Ils toucheront environ 70% de la valeur de leur appartement. Et puis, il faut quand même souligner qu'en 9 ans, l'immeuble n'a pas bougé. Il n'y a aucune fissure. C'est du béton bien solide des années 60-70. La mer n'est qu'à 20 mètres à marée haute, mais le signal est toujours là, avant donc d'être détruit aujourd'hui. Donc on comprend la colère des propriétaires.
Et au-delà des propriétaires, Philippe, à Soulac-sur-Mer, comment réagissent les habitants devant cette démolition ?
Alors écoutez, les habitants ne pleurent pas. Écoutez Didier.
Moi personnellement, je l'aime pas parce que c'est pas très beau quoi. Après les gens qui habitaient dedans, évidemment, ils avaient une superbe vue quoi. Ils étaient amoureux du signal quoi. De toute façon, vous voyez, Soulac est là et il est bâti vraiment à l'opposé quoi. Il est seul là sur le bord de plage. Moi, à mon avis, il n'a pas lieu d'être là quoi. Et c'est une verrue.
Une verrue pour Didier, sévère habitant de Soulac. Et après la destruction du signal, la dune de sable va reprendre ses droits sur la plage de Soulac-sur-Mer.
Merci beaucoup Philippe de Maria à Soulac-sur-Mer, donc pour RTL.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Et vous avez sans doute entendu depuis ce matin ce ballon espion qui survole le Canada notamment. On va tout vous dire, à tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Un ballon espion chinois que des citoyens américains ont d'abord pris pour une deuxième lune. On va revenir maintenant sur cette information que vous avez peut-être entendue au réveil ce matin sur RTL. Bonjour Émilie Beaujard.
Bonjour.
D'abord, de quoi parle-t-on exactement ? Qu'est-ce que c'est ce ballon espion ?
Eh bien, c'est un gros ballon. Il fait la taille de 3 bus, c'est-à-dire 30 à 40 mètres de diamètre. Il vole très très haut, au-dessus des couloirs aériens. Alors, il ne représente pas de menace pour le trafic aérien militaire ou commercial. Il dérive lentement au-dessus des États-Unis après avoir survolé l'Alaska et le Canada.
Est-ce qu'on est certain qu'il s'agit d'un appareil chinois ?
Alors non. Le Pentagone dit dans son communiqué que le ballon a très certainement été lancé par la Chine, mais on ne sait pas s'il a été lancé depuis la Chine ou d'ailleurs, ni qui est véritablement derrière cet engin. Pékin, de son côté, diffère des vérifications et appelle à ne pas monter les choses en épingle.
Ce ballon, Émilie, était au-dessus du Montana. Que surveillait-il ?
Alors, oui, enfin, en tout cas, ce qui a alerté le Pentagone, c'est que le Montana abrite une base aérienne et des missiles nucléaires américains. Alors, même s'il n'a pas survolé directement ces sites stratégiques sensibles, le ballon est passé pas très loin. C'est pourquoi le Pentagone a envoyé plusieurs avions de chasse américains pour voler autour du ballon, en fait, et surveiller sa trajectoire.
Il est où maintenant ce ballon ?
Eh bien, il continue de dériver, ce qui interroge d'ailleurs les experts américains. Pourquoi le laisser voler ? Pourquoi ne pas l'abattre ? Les Canadiens et les Américains expliquent qu'il n'y a pas de risque, que ce ballon ne peut pas en fait collecter d'informations stratégiques, en tout cas pas plus que ce que la Chine possède déjà grâce à ses satellites espions. Mais alors, pourquoi envoyer un tel ballon forcément repérable s'il ne sert à rien ? Peut-être est-ce juste de l'intimidation de la part de la Chine ou d'un autre pays d'ailleurs.
Bon, les Chinois qui surveillent le monde, si tant est que ce soit bien eux, on a compris qu'il fallait être encore un peu prudent, Émilie. C'est pas non plus une surprise.
Et absolument pas. D'ailleurs, la Chine a déjà envoyé ce genre d'engin, explique le Pentagone. Donc la Chine surveille, les États-Unis surveillent, la Russie surveille. Chaque pays possède d'ailleurs des satellites espions.
C'est pas nouveau, ces ballons espions ?
Alors, non, c'est pas nouveau. Le premier pays en fait à avoir utilisé des ballons pour de la surveillance, c'est le Japon en 1944. Aujourd'hui, plusieurs pays en utilisent et même quotidiennement. Israël, par exemple, a des ballons de surveillance au-dessus de la bande de Gaza et de certaines villes palestiniennes. Ce sont là-bas des ballons reliés au sol et qui enregistrent tous les mouvements de personnes et de véhicules. Notons que les États-Unis aussi travaillent depuis des années sur un programme de ballons espions capables de voler au-dessus des lignes aériennes. Donc ce qui est nouveau dans le cas d'aujourd'hui, c'est la durée de vol et l'altitude très élevée. Cela fait déjà plusieurs jours que ce ballon dérive. Il est donc forcément piloté à distance pour pouvoir suivre les courants d'air. Et il y a donc forcément quelqu'un derrière. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que pour l'instant, ni le Canada et les États-Unis ont pris la décision de détruire ce ballon. Mmh. Officiellement, le Patagone met en avant le risque de chute de débris. Mais le laisser en mouvement, c'est aussi pouvoir le pister et surtout tenter de brouiller ses communications.
Et puis ce ballon, il doit être très imposant parce que certains imaginaient que c'était une lune
qui
était dans le ciel.
Il fait 30 à 40 mètres de diamètre. Donc forcément, même s'il vole très très haut, il est visible effectivement de la Terre, comme ont pu le voir les habitants du Montana la nuit dernière.
C'était pas donc un ovni,
c'était
puisqu'il
pas
est
un
maintenant
ovni.
Identifié.
Exactement.
Merci beaucoup, Émilie Beaujard, du service international d'RTL.
Dans un instant, RTL Midi, votre vie, l'heure du départ en vacances a sonné pour une partie des élèves français. Les bons plans pour les vacances d'hiver et pas qu'au ski, on en parle tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210. 50 centimes la minute. RTL Midi. Votre vie.
RTL Midi, votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Classique.
Bien, efficace.
Les bronzés font du ski, mais pendant les vacances de février, vacances d'hiver, il n'y a pas que les sports d'hiver. Beaucoup d'alternatives, de bons plans. Et pour en parler avec nous, François Lecançon, président d'ADN Tourisme. Bonjour.
Bonjour.
Les vacances scolaires commencent ce soir pour la zone A. Les académies de Bordeaux, de Lyon ou Poitiers notamment. Est-ce qu'on sait déjà combien de Français, de familles ont l'intention de partir pendant ces vacances d'hiver, que ce soit pour une semaine entière ou pour quelques jours ?
Ben aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les Français ont vraiment envie de partir en vacances. Et contrairement à ce qui a été dit au mois de décembre, je me permettrai avant toute chose de rappeler qu'il y a de la neige sur nos montagnes, et spécialement dans les stations des Alpes du Sud et des Alpes du Nord. Et je crois que c'est une bonne chose parce que les gens de la montagne ont vécu deux années particulièrement difficiles. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, 42% des Français ont l'intention de partir en vacances. Les 55% vont prioriser des week-ends de 3 jours. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà l'offre hôtelière est réservée à plus de 40%. Donc il y a un véritable engouement pour les vacances. Ce qu'on a connu déjà cet été, c'est qui s'est poursuivi en automne et à Noël, continue de se poursuivre pour les vacances. Oui, les Français ont envie de partir en vacances.
C'est ça qui est paradoxal. Réforme des retraites, inflation, et en même temps, on voit que les Français ont envie de dépenser de l'argent. Quel est le budget moyen pour ces quelques jours de vacances ?
Ben pour ces quelques jours de vacances, on a un budget pour les courts séjours de 3 jours qui est de 466 € par personne. Et effectivement, on a un budget supérieur au budget de l'année dernière qui était de 371 €. Malgré la crise, malgré l'inflation, les Français ont envie de prendre un bol d'air.
Vous dites des séjours relativement courts. C'est nouveau ou c'est une tendance déjà ancrée depuis longtemps ?
C'est une tendance qui est ancrée depuis quelques années, mais qui se précise et qui s'affine d'année en année. Et cette année, on est plutôt sur des séjours de 3-4 jours pour les vacances d'hiver.
Vous parliez d'un budget, si je vous ai bien écouté, de moins de 400 € pour ces vacances d'hiver. Ça veut dire
466 €.
Pardon, un peu plus de 400 €. Ça veut dire que le ski, c'est loin d'être pour tout le monde. À ce prix-là, les sports d'hiver, c'est compliqué quand même.
Effectivement, les sports d'hiver restent un sport assez coûteux. Et on voit que les Français ne vont pas tous au sport d'hiver. Et il y en a qui vont plutôt dans des grandes villes. J'ai envie de citer Marseille, Bordeaux, Lyon. On appelle ça les city break. Et bien sûr Paris, avec des taux de réservation hôtelier supérieurs à 50%. C'est-à-dire qu'ils sont 24% supérieurs à ce qu'on a connu l'année précédente. Et puis on a les départements qui restent les départements les plus visités, qui sont Paris, Loire-Atlantique, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Hautes-Alpes.
On a une statistique sur le nombre de Français qui vont au sport d'hiver ?
On peut considérer qu'un tiers des Français vont au sport d'hiver et que le reste vont ou dans la famille.
Vous m'étonnez toujours avec ce chiffre.
Un tiers, c'est beaucoup.
Je trouve ça.
Eh oui, c'est énorme. Il y a quand même un engouement pour le ski. Et cette année encore plus, on a vu notamment dans les Alpes du Sud où il y avait beaucoup de neige que toutes les stations ont affiché complet, notamment la deuxième semaine de Noël. Il y a plus de 11 milliards de personnes qui vont au sport d'hiver.
Bon, quelle est la région de France, à votre avis, qui sera la plus visitée durant ces prochaines vacances entre Paris, Marseille, les sports d'hiver, la Loire-Atlantique, toutes les régions que vous nous avez citées?
Alors Paris, bien évidemment, fait partie des destinations leaders, mais j'ai envie d'être chauvin et je vous l'ai dit, parmi les départements, on voit qu'il y a 4 départements de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors vous pouvez venir chez nous pour aller faire un petit tour au Carnaval de Nice du 10 février au 26 février, comme vous pouvez visiter la Fondation MAG d'Avance, aller voir la Villa Noailles à Hyères et puis continuer jusqu'à Marseille où vous pouvez découvrir le Mucem et la grotte Cosquer qui depuis le mois de juin a déjà accueilli plus de 500 000 visiteurs. C'est notre tour Eiffel à nous. Donc je crois que j'ai envie de penser aussi à la Loire-Atlantique et à la Bolle chez mon ami Franck Louvrier. Là aussi je pense qu'il y aura beaucoup de monde.
Pour parler pouvoir d'achat, vous savez que c'est une préoccupation des Français. Est-ce qu'il y a des régions qu'il vaut mieux visiter à cette période de l'année plutôt que l'été et qui permettent de faire des économies conséquentes?
Oui, effectivement, il faut éviter les périodes d'été où il y a des pics de fréquentation. Donc c'est la bonne occasion d'aller visiter le Mont-Saint-Michel, les châteaux de la Loire et peut-être aussi les châteaux de Rambouillet. Et là, on peut faire une économie qui permet de passer de bonnes vacances dans de bonnes conditions de prix.
Donc l'économie, on l'a fait sur les logements, puisqu'on imagine que le prix du château de Chambord, c'est le même toute l'année.
Oui, mais le logement autour, la restauration, on s'aperçoit que quand il y a des pics de fréquentation, il y a eu des abus. Et on l'a particulièrement connu dans les hôtels cet été, où le RevPart est monté en flèche. Là, on a une stabilité des prix. C'est le prix moyen de la chambre d'hôtel.
D'accord.
Qui permet aujourd'hui de passer des vacances à un prix tout à fait raisonnable, hors des périodes estivales.
Et on n'a pas parlé des Français qui prendront l'avion pour faire 10 000 km, parfois aller aux Antilles, pourquoi pas, ou à l'étranger. Est-ce qu'on a des statistiques là encore ?
J'ai pas de chiffres exacts, mais on a toujours un engouement pour les vacances longue distance. Il y a des Français qui préféreront prendre l'avion. Mais ce qu'on a ces dernières années, c'est que les Français sont restés en France. Les vacances se sont passées chez nous. Et contrairement aux Français qui sont restés chez nous, on a eu des Européens qui sont revenus chez nous. Il y a seulement 10% des Français qui aujourd'hui vont passer leurs vacances à l'étranger.
Merci beaucoup François de Canson, président, je le rappelle, d'ADN Tourisme, des séjours donc de quelques jours, surtout en France, et avec un tiers des Français, vous avez nous dit, qui partent au ski, qui nous étonne. On est trois autour de la table. Est-ce que quelqu'un va au ski cet hiver?
Non, mais ça ferait 20 Valérie millions de Français. On est plus de 60 millions d'ailleurs.
On n'est pas représentatif apparemment.
20 millions de Français au sport d'hiver chaque saison. Tant mieux d'ailleurs pour les sports d'hiver et pour les montagnes qui nous écoutent. Il est 12h26. L'info va revenir dans une seconde.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
La grande édition de Céline Landreau, effectivement.
Elle rêvait de boucler un deuxième Vendée Globe, mais la maternité l'empêche aujourd'hui de prendre le large. Voilà comment la navigatrice Clarisse Kremer résume sa mésaventure. Elle ne pourra pas prendre le départ du prochain Vendée, son sponsor Banque Populaire la lâche. La banque craint en effet que Clarisse Kremer n'arrive pas à se qualifier car le règlement de la course a changé. Le président du Vendée Globe est pointé du doigt. Il se défend sur RTL. Alain Leboeuf sera avec nous après le journal. Dans l'actualité également, les suites de l'enquête après le meurtre de Siem. 18 ans dont le corps a été retrouvé, vous le savez, hier. Une autopsie réalisée aujourd'hui. Elle permettra peut-être d'en savoir plus sur les circonstances du décès de la jeune femme. L'affaire Siem et cette question du jour sur notre site RTL.fr. Europe.fr. Comme le pense Gérald Darmanin, la violence est-elle de plus en plus forte dans notre société? C'est la question du jour. Vous répondez, comme vous le savez, sur notre site internet. Dans ce journal aussi, le sommet européen à Kiev, premier sommet européen dans un pays en guerre. La traversée présidentielle de Christophe Bourou à bord d'une SM. Christophe viendra nous raconter comment il s'est baladé ce matin dans la capitale française jusqu'à l'Elysée comme un certain Pompidou. Et puis juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi, Steven Bellery sera avec Salvatore Adamo aujourd'hui.
On parlera de tous ces sujets évidemment avec les auditeurs à partir de 13h. J'ajoute que le médecin nutritionniste Jean-Michel Cohen vient de sortir un nouveau livre, Maigrir, pourquoi je n'y arrive pas, et il sera avec nous à 13h50, donc il pourra échanger avec les auditeurs.
Elle n'en a pas besoin, Valérie Quintin.
Ça dépend des fois.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi côté temps?
Deux ambiances, de la grisaille à 9h avec 8 degrés, 10 degrés de plus à Perpignan au soleil.
Merci Valérie, à tout de suite.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Au lendemain de la découverte du corps de Siem dans le Gard, une autopsie est réalisée aujourd'hui. Elle permettra peut-être d'en savoir plus sur les circonstances du meurtre de cette jeune femme de 18 ans.
Un meurtre qu'a avoué le principal suspect, qui évoque, lui, une dispute sur fond de relations amoureuses, relations niées par l'avocat de la famille de la jeune femme. Bonjour Patrick Tégéro.
Bonjour.
Il a été question au cours de l'enquête d'un scénario de faux kidnapping pour faire chanter des trafiquants de drogue. Mais d'après vos informations, Patrick, cette piste-là est aujourd'hui écartée.
Oui, un enquêteur me confiait ce matin que cette piste était sans fondement et relevait en fait des nombreuses rumeurs colportées au moment de la disparition de Siem. Une piste pourtant proposée par les propres parents de la jeune fille sur la foi des affirmations de certaines de ses amies. Une piste qui a même polluer l'enquête à ses débuts, car aucun élément ne permet d'envisager qu'un tel scénario extrêmement complexe et dangereux ait existé. Reste la thèse de la relation amoureuse qui semble la plus sérieuse, la plus plausible en tout cas. Le meurtrier a mis du temps à se confier, il n'en était pas à sa première garde à vue et il a fallu toute la patience et le talent de persuasion de son avocat pour qu'il finisse par parler. Pendant ces longues heures de garde à vue, avocat et enquêteur de la SR de Nîmes ont travaillé ensemble avec l'espoir de retrouver Siem vivante. Alors, ça a été un immense sentiment de déception quand Mafoud Ansali a fini par reconnaître le meurtre. Ensuite, il a guidé les gendarmes jusqu'au corps à peine camouflé qui gisait au bord d'un chemin perdu dans la forêt. Les magistrats instructeurs et les gendarmes du Gard devraient pouvoir disposer des premiers éléments de l'autopsie. Aujourd'hui, ils seront succincts car les analyses plus précises pourraient prendre plusieurs semaines. Mais pour le médecin légiste, à première vue, Sien a été tué très peu de temps après avoir quitté la maison de sa grand-mère.
Patrick Tégéro dans le Gard pour RTL.
Plus de 20 000 amendements. Le menu s'annonce copieux, voire indigeste pour les députés qui examineront à partir de lundi dans l'hémicycle la réforme des retraites.
Réforme indispensable, a encore martelé Elisabeth Borne hier en assurant dans le même temps qu'elle n'envisage pas l'hypothèse d'un passage en force via le 49-3. L'actuel chef du gouvernement qui a reçu le soutien de l'un de ses prédécesseurs, Édouard Philippe, est apparu à la télévision hier pour dire tout le bien qu'il pensait de cette réforme, mais davantage que ses propos, c'est peut-être l'apparence physique de l'ancien Premier ministre qui a marqué, sujet sur lequel il est lui-même revenu sur BFM.
J'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils ne reviendront plus. Et ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu et mes cheveux tombent aussi. Je suis atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. C'est quelque chose qui peut se déclencher très jeune ou très vieux. Ça n'est ni douloureux, ni contagieux, ni grave. J'en souffre à 52 ans. Perdre ses cheveux à 52 ans, ça va, c'est pas un sujet.
Édouard Philippe, chez nos confrères de BFM Télé. Donc hier, cette maladie dont il parle, qui lui fait perdre ses sourcils, c'est l'alopécie. Nathan Bocard, qu'est-ce qu'on sait, que sait-on de cette pathologie?
Alors l'alopécie, c'est déjà un terme très général. Globalement, ça désigne une chute prématurée des cheveux et dans certains cas, des poils. Ça peut avoir tout un tas de causes et de manifestations différentes. Dans le cas d'Edouard Philippe, on voit bien qu'il perd non seulement ses cheveux, mais aussi donc ses sourcils et sa moustache. Là, on va parler plus précisément de pelade, ce qui est une forme particulière d'alopécie. On peut d'ailleurs y voir un lien avec la décoloration de sa barbe, qui avait déjà beaucoup fait parler quand il était à Matignon. Cette décoloration s'appelle un vitiligo et tout comme la pelade, c'est une maladie auto-immune. Concrètement, c'est son système immunitaire qui s'attaque à ses poils. Ça peut être causé par le stress, la pression, mais ça n'est pas toujours le cas. Il faut savoir que ça n'est pas forcément irréversible. En théorie, les poils peuvent repousser. En revanche, Édouard Philippe le dit et ça m'a été confirmé par des dermatologues. L'alopécie ne présente aucune gravité au-delà des conséquences sur l'apparence.
Merci beaucoup Nathan Bocard.
Est-ce la fin du prêt-à-porter populaire français?
Alors que Koukaï a annoncé mercredi son placement en redressement judiciaire, le sort de Pinky inquiète. L'enseigne pourrait être vendue avec 500 suppressions d'emplois à la clé selon les syndicats. Des annonces qui interviennent après la liquidation déjà de Camailleux. Alors cette question, quel avenir pour le prêt-à-porter français populaire, milieu de gamme? Eh bien, en croire Alexis Blanchard de l'association Multifranchise de Commerce, les perspectives sont plutôt sombres.
Aujourd'hui, on a une filière qui est à l'agonie. Ceux qui sont actuellement en tête et qui ont pris de la part de marché, ce sont des grandes surfaces spécialisées qui sont sur des formats de 600 mètres carrés et plus et qui offrent du petit prix. On a laissé entrer des grandes marques irlandaises qui sont arrivées à prendre des parts de marché incroyables avec finalement très peu de magasins. Mais on oublie la provenance des produits et ça sèche le centre-ville. À côté de ces centres-là, on a du mal à vivre. Le consommateur peut se poser des questions lorsqu'il voit un jean à 20 euros d'un côté et à 49 de l'autre. Si on ne se pose pas plus de questions que ça, on peut se faire tromper.
Alexis Blanchard qui évoquait donc Primark de l'association Multifranchise de Commerce. Il était joint pour RTL par Martial Hugo.
Un sommet européen dans un pays en guerre, c'est une première.
Les représentants de l'Union européenne sont à Kiev pour entériner encore un peu plus le soutien de l'Europe à l'Ukraine. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour.
Sommet qui s'est ouvert dans une ambiance très particulière ce matin.
Ah oui, avant l'ouverture du sommet, avant même la photo de famille, les sirènes ont retenti à Kiev, la capitale pavoisée aux couleurs européennes. Mais la présidente et 15 autres membres de la Commission européenne sont bien au travail, tout comme Charles Michel, qui représente les 27 chefs d'État et de gouvernement. Si Poutine veut me tuer, il le fera de toute façon, à coutume de répéter Ursula von der Leyen.
Les discussions ont quand même eu lieu, Bénédicte, sur la table, de l'argent et une adhésion à l'Union européenne.
Oui, parce que l'avenir de notre continent s'inscrit ici en Ukraine, rappelait hier la présidente de la Commission. Dans leur bagage, les commissaires ont apporté l'accès au marché unique pour les marchandises ukrainiennes, 25 millions d'euros pour nettoyer le territoire des mines antipersonnelles, 35 millions d'ampoules LED, la formation de 30 000 soldats ukrainiens et un dixième paquet de sanctions contre la Russie. On rappelle que notre continent apporte moins d'armes que les Américains à Kiev, mais davantage d'argent avec un budget de 50 milliards d'euros. Maintenant, il y a le dossier le plus difficile, celui de l'adhésion. Kiev veut entrer dans l'Union grâce, de façon accélérée, dirons-nous, avant 2026. L'Ukraine mérite d'entamer la procédure cette année, appuie Zelensky.
Bénédicte Tassard, chef du service international de RTL.
RTL Midi. Je vous propose d'écouter ce son à présent qui ravivera les nostalgiques férus d'automobiles.
Celui du moteur de la SM. Vous l'aviez reconnu ?
Non, il faut être quand même un spécialiste comme M. Bourou pour reconnaître le son.
Cette SM, célèbre voiture présidentielle de Pompidou à Chirac, jusqu'à Christophe Bourou, que vous citiez à l'instant, Pascal, puisque vous l'avez peut-être entendu sur RTL ce matin. C'était notre fil rouge à l'occasion du salon Rétromobile. Vous avez pu, Christophe, vous offrir une traversée de Paris dans la voiture présidentielle, traversée qui vous a conduit jusque dans la cour de l'Élysée.
Et quelle voiture iconique de 1972, qui a transporté des chefs d'État, mais aussi la reine d'Angleterre, le pape Jean-Paul II, et en 95, Jacques Chirac remonte à son bord les Champs-Élysées pour son investiture. Évidemment, dans ma peau de président, j'ai suivi le même chemin sur la plus belle avenue du monde, debout grâce à une barre installée à l'arrière de la voiture.
Voilà, donc je me lève, je me mets à la place du chef de l'État, debout, et c'est parti. Je salue la foule. Les gens me regardent un peu bizarrement. en pensant qu'il y a un nouveau président de la République. Et grâce à la fameuse suspension Citroën, la voiture avance tout doucement. Un panorama incroyable, hein. Les Champs-Élysées debout dans la SM présidentielle. Il manque plus que la garde républicaine. On s'y croit.
Je vous jure, ça fait vraiment son effet. Alors, Champs-Élysées, Grand Palais, Tour Eiffel, à bord de ce cabriolet, 4 places dans un confort absolu avec ses fauteuils en cuir XXL. Un véritable palace flottant de 5,60 m de long quand même, qui fait un effet Madeleine de Proust.
Elle est splendide, on n'en fait plus des aussi belles. Il y avait une forme, il y avait une beauté, il y avait de l'élégance. Ça, c'est magnifique.
C'est le génie français, vous savez. Avec mes parents, on était sur la place de Concorde quand la reine d'Angleterre a fait son premier voyage en France. C'est sympathique tout ça, c'est des beaux souvenirs.
Et point d'orgue de cette journée, nous avons eu l'autorisation exceptionnelle d'entrer carrément dans la cour de l'Élysée.
Monsieur le Président.
Alors vous m'ouvrez la porte. Hein,
ah oui, forcément. Hein, allez, voilà. On y va.
Je m'assois à l'intérieur de la voiture, dans la cour de l'Élysée, à 2 mètres du perron. La voiture se soulève en plein milieu de la cour de l'Élysée. Je peux vous dire que beaucoup, même ici à l'Élysée, sont intrigués par cette voiture et viennent prendre des photos.
Alors forcément un gros engouement parce que la voiture n'était pas revenue à la maison, si je puis dire, à l'Élysée, depuis au moins 15 ans. Voiture qui d'ailleurs appartient toujours à l'État, immatriculée, 3PR comme présidence de la République, 3PR75.
Merci Christophe Bourreau.
Président Bourreau.
Et après le son de la balade, les images sont à retrouver évidemment sur notre site rtl.fr. Un mot de sport pour vous dire que le parcours de la flamme olympique en France en vue des JO de Paris débutera à Marseille. Ce sera au printemps 2024, un choix assez naturel et évident, a expliqué le président du comité d'organisation des JO de Paris, Tony Estanguet. C'est loin une ville passionnée de sport, chaleureuse, populaire et multiculturelle. Et puis en rugby, première sélection pour Ethan Dumortier, 22 ans, avec le 15 de France. Ce sera face à l'Italie pour l'ailier qui disputera donc son premier match à Rome. Première rencontre du tournoi des Six Nations. La météo avec Valérie Quintin en ce vendredi. Quand vous êtes là, ça annonce le week-end, c'est toujours agréable. Oui, Valérie,
j'aime être la bienvenue systématiquement, ça fait du bien au moral.
Et pour notre morale, vous nous annoncez quoi?
Alors pour votre morale, je vous annonce un ciel bien gris pour la moitié nord du pays cet après-midi. Ce sera d'ailleurs le cas tout le week-end. Une grisaille qui va de la Charente-Maritime jusqu'au Jura. Alors localement, on peut avoir quelques éclaircies, hein. C'est le cas en Bretagne, dans les Pays de Loire ou encore en Touraine, mais elles seront généralement assez furtives. Dans le sud, beaucoup de ciel bleu, mais un très fort Mistral encore avec des rafales entre 70 et 80 km/h aux abords de Montélimar, Orange ou encore Avignon. 9 degrés à Mulhouse cet après-midi, 10 au Havre, à Paris, à La Rochelle, 11 au Mans, à Tours et à Grenoble, 12 à Montélimar et 15 degrés à Marseille.
Merci Valérie.
L'affaire Clarisse Kremer dans une seconde, elle a 33 ans, elle est navigatrice, elle a terminé 12e de la dernière édition du Vendée Globe, mais elle ne peut pas prendre le départ de la course en 2024. Nous serons avec le président du Vendée Globe, Alain Leboeuf. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
La maternité l'empêche de prendre le large. Voilà en résumé comment la navigatrice Clarisse Kremer raconte sa mésaventure. Elle ne pourra pas prendre le départ du prochain Vendée Globe, course mythique. Son président Alain Leboeuf, pointé du doigt d'ailleurs lui aussi par la navigatrice, est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On va vous entendre vous expliquer dans quelques instants, mais vous n'êtes pas le seul accusé par Clarisse Kremer. Banque Populaire, son sponsor, donc, décide de me laisser à quai, a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux. Elle qui a déjà pris le départ du dernier Vendée, qui avait d'ailleurs bouclé ce tour du monde en solitaire. Mais depuis, Jean-Michel Rascol, elle est devenue maman, on le disait, et c'est ça qui pose problème.
Il faut savoir que les organisateurs du Tour du Monde en solitaire sans escale, organisés tous les 4 ans, imposent désormais aux concurrents qu'ils aient totalisé un certain nombre de 1000 marins en course pour pouvoir participer. Clarisse Kremer, du fait de sa parenthèse maternelle, n'est pas sûre de pouvoir remplir cette nouvelle case. Du coup, Banque Populaire, son sponsor, qu'il avait soutenu dans son projet de femme, décide de la lâcher pour être certain d'être au départ, mais avec un autre marin. Alors, faut-il donner une dérogation à une jeune maman qui a un historique, vous l'avez dit, dans cette épreuve, et qui ne présentera peut-être pas toutes les assurances sportives au moment du départ en novembre 2024. La cause de Clarisse Kremer est juste, même si les arguments, les siens, ceux de Banque Populaire et des organisateurs, sont recevables.
Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. On vous retrouve donc Alain Leboeuf, président de cette course du Vendée Globe. On l'a dit, la navigatrice vous met en cause d'une certaine manière à cause de ce changement de règlement qui l'empêche aujourd'hui d'être toujours sponsorisé par Banque Populaire. Vous envisagez de le changer ?
Vous avez bien dit d'une certaine manière, parce que le règlement actuel lui permet tout à fait d'être au départ, et c'est ce que je souhaite. Je lui ai réécrit le 17 octobre dernier pour lui dire je veux que vous soyez, chère Clarisse, le 10 novembre 2024 sur la ligne de départ. Non, le règlement permet sans aucun problème. C'est pour ça que je suis assez surpris de cette décision, j'allais dire un peu hâtive, de Banque Populaire. Et Clarisse a toutes les possibilités, j'allais dire, de se qualifier, puisque il y a deux courses qualificatives, une en, obligatoirement en 2023 et une en 2024. Donc, malgré sa maternité, et on ne peut que se réjouir pour elle et sa petite fille, malgré sa maternité, elle peut très très bien remplir les conditions pour être au départ. Et donc, il reste évidemment la possibilité qu'elle n'ait pas suffisamment de 1000, mais là aussi, c'est au cas où il y aurait plus de 40 qualifiés, et il nous reste, ça a été prévu vu là aussi dans le règlement, cette fameuse wild card. Et donc on devine qu'avec une championne comme Clarisse, première femme sur le dernier Vendée Globe, qui a même battu le record d'Hélène MacArthur, qu'elle coche toutes les cases. Donc,
pourquoi vous ne la donnez pas tout de suite alors ?
Oui, monsieur Leboeuf, j'ai l'impression d'entendre la chanson de Dalida avec Alain Delon, parole et parole et parole. Lorsque alors, j'entends Jean-Michel Rascol dire les arguments de Vendée Globe sont recevables, non, puisque vous mettez une différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que pendant un an, elle n'a pas pu participer à des courses qualificatives, pré-qualificatives, parce qu'elle attend un enfant, parce qu'elle est enceinte. Un homme n'est jamais dans cette situation. Donc votre règlement, il est discriminant. Eh bien, aujourd'hui, en 2023, c'est inaudible, monsieur Leboeuf.
Non. Alors là, je redis très clairement, comme tous les autres participants, il y en a qui n'ont pas encore commencé les courses. Donc, Clarisse peut être sélectionnée sans aucune difficulté, malgré sa grossesse, elle le sait bien. Je l'ai encore eu tout à l'heure au téléphone. Elle est très consciente qu'elle peut y aller, mais elle est lâchée par un sponsor. Ne nous trompons pas de cible.
Monsieur Leboeuf, lâché effectivement par la Banque Populaire, qui explique ne pas vouloir prendre le risque de ne pas avoir de skipper au départ. Et ça, c'est un réel enjeu économique et publicitaire pour Banque Populaire. Face à la polémique que vous voyez monter, qui entache d'une certaine manière aussi la réputation de cette course mythique qu'est le Vendée Globe, est-ce que vous n'envisagez pas, malgré tout, d'accorder une invitation qui permettrait peut-être à Banque Populaire de continuer à soutenir Clarisse Kremer et qui mettrait fin à tout ça et qui réglerait ces accusations
De misogynie, de machisme et d'être dans une autre époque.
Oui, j'entends bien que c'est vous, Monsieur Pro, qui expliquez ça. Très clairement, je vous le dis, je le répète et je l'ai écrit, notre skipper peut prendre le départ. Elle devra faire, comme tout le monde, des courses qualificatives, mais encore une fois, une grossesse, c'est 9 mois.
Non, mais on tourne en rond, Monsieur Leboeuf, on tourne en rond. Elle a manqué, femmes et les hommes ne sont pas traités de la même manière dans votre règlement.
Alors, Monsieur Pro, est-ce que vous pouvez me répondre ? Est-ce qu'elle peut participer, est-ce que Clarisse peut participer en 2023 à deux courses?
Si tant est qu'elle gagne ou qu'elle soit qualifiée, oui. Mais pourquoi vous ne lui donnez pas une wild card? C'est ça que je ne comprends pas. Enfin, c'est très simple pour vous. Elle a été 12e la dernière fois.
Pascal, il y a une petite nuance quand même.
Monsieur Rascol.
Le fait qu'elle soit tombée enceinte, c'est une décision personnelle. Certes qu'il écarte des qualifications, mais c'est une décision personnelle. La deuxième, c'est pourquoi on impose que les skippers aient un certain nombre de 1000 en course. C'est aussi pour la sécurité. Imaginons une jeune femme qui revienne d'une maternité, qui n'est pas l'expérience ou en tout cas l'état physique à 100% de ses moyens pour pouvoir affronter une telle course et qu'il se passe quelque chose de grave. On se retournerait vers les organisateurs pour dire attention, on a accepté quelqu'un qui était entre guillemets diminué.
Et pour ce principe de qualification, on a la même chose dans d'autres sports. On le rappelle, c'est le cas pour les Olympiades, notamment au judo, où on a l'exemple de judoka, je parle sous votre contrôle Jean-Michel, qui planifient leur grossesse pour pouvoir faire ensuite les minima.
L'exemple d'une autre Clarisse Agbienienou, la judoka, elle a décidé effectivement de devenir maman, mais elle a choisi un timing qui ne la privait pas de Paris 2024. Et si elle n'était pas tombée enceinte, parce que le problème s'est posé pour cette jeune femme, eh bien, elle aurait
donc elle n'avait qu'à pas être enceinte.
Non, elle aurait peut-être Crémer renoncé
c'est
à
une position,
devenir
je la partage
maman
pas.
Pour continuer sa carrière sportive.
Merci beaucoup, en tout cas, Alain Leboeuf. On a compris votre position. Vous souhaitez le départ de Clarisse Crémer au départ du Vendée Globe, hein, pour être très clair. Et vous appelez d'une certaine manière la Banque Populaire à ne pas la laisser tomber, c'est ce qu'on comprend.
Voilà, et ou un autre sponsor à venir la soutenir. En tous les cas, moi, je serai l'homme de parole qui vient de s'exprimer pour que cette jeune femme puisse participer au prochain Vendée Globe.
Merci beaucoup, Alain Leboeuf, président, je le rappelle, du Vendée Globe, cette course mythique au large en solitaire. Merci.
Merci beaucoup à vous.
Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre femme, votre fille d'ailleurs, votre fille.
Attention Pascal, oui. Vous allez avoir des problèmes.
On va parler d'Adamo dans une seconde avec Steven Bellery, qui est un amour Adamo.
Ah, quel grand monsieur.
À tout de suite.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal Pro. RTL, laissez-vous tenter midi.
Je t'aime.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi et aujourd'hui donc un grand monsieur de la chanson.
Salvatore Adamo est de retour avec In French, Please, Steven. Une collection de reprises de chansons anglo-saxonnes adaptées, vous l'aurez compris, en français, s'il vous plaît. Steven, vous avez rencontré donc l'artiste qui chante français mais qui est belge.
Oui, de retour avec une étonnante collection de 14 reprises. Adamo réinvente You've Got a Friend, Sorry Seems to Be the Hardest Word, The Horse with No Name. Il chante Bob Dylan, Neil Young ou Robert Palmer. Bref, une playlist singulière pour celui qui a tracé sa route dans la chanson francophone. Pourtant, celui qui est né en Sicile a été biberonné à la musique anglo-saxonne à son arrivée en Belgique.
C'est vrai que chez moi, avec mon père, on avait commencé par écouter les chansons italiennes pour ne pas perdre le contact avec le pays. Mais après, petit à petit, vers les 13-14 ans, est arrivé Elvis Presley. Je dois dire, Bill Haley, juste avant, c'est grâce à Elvis Presley un peu que je suis peut-être là aujourd'hui à répondre à vos questions, parce que ma mère m'avait surpris devant un miroir avec un balai en train de me déhancher à l'Elvis Presley. Donc, elle a écrit à son père qui m'a envoyé une guitare. Tout est parti de là. J'ai pris 4 leçons de guitare pour apprendre quelques harmonies. Et puis avec les copains qui aussi avaient une guitare, on se chantait du Elvis Presley, des Everly Brothers, de Gene Vincent, du Roy Orbison, toute cette mouvance-là.
Traverser le désert au dos d'un cheval sans nom, et la mer sur une planche pour te demander pardon, et arriver devant toi, t'entendre me dire non. Dans le désert, j'ai même pu oublier ton nom.
Sans nom, adaptation d'Américain.
Et c'est Salvatore lui-même qui a adapté les textes en français, Steven.
Oui, même s'il a chanté dans 9 langues différentes au cours de sa carrière, en anglais, en italien, en espagnol, en japonais, Salvatore Adamo revient toujours au français.
C'est en français que les chansons me viennent, c'est en français que je me retrouve le plus, mais il me semble, et on me l'a fait remarquer, que ma voix, elle sort mieux en italien et en espagnol, parce que les voyelles sont plus ouvertes, il y a les A, mais ma sensibilité, elle est belgo-française, matinée mélodiquement d'italien.
C'est vous, Salvatore, qui avez adapté tous les textes en français. C'était votre travail de confinement en 2020.
C'était un peu ça, mais c'était plutôt un passe-temps. C'était un exercice de style qui m'a donné beaucoup de plaisir. Je suis assez méticuleux et je tiens peut-être ça de mon grand-père paternel qui s'appelait Salvatore Adamo aussi et qui était vanier. Et je me souviens, je l'observais quand il tressait son osier pour faire des beaux paniers. Voilà, j'ai cette patience-là du mot juste.
Donc la chanson, c'est de l'artisanat pour vous?
Complètement, oui. Et ça doit le rester pour moi. Ouais.
Vous continuez encore à écrire des chansons aujourd'hui?
Beaucoup. La nuit aussi, je me réveille pour enregistrer des mélodies qui me passent par la tête et puis j'espère me rendormir et sans que je la cherche, la suite de la mélodie me vient.
Oui, je me suis rangé, du moins en apparence. Maintenant, je
sais. La version de Hearts de Marty Balin, Cœur, mon cœur.
À bientôt 80 ans, Salvatore Adamo célèbre cette année ses 60 ans de carrière, Steven.
6 décennies de musique, imaginez, il a vendu 100 millions de disques et Adamo continue de courir le monde. Il a un concert à Istanbul la semaine prochaine, une tournée au Québec. Le chanteur ne ressent toutefois aucune fierté.
La gratitude, parce que le public y est pour beaucoup à cette longévité. Ma petite histoire, et puis à chaque disque, j'avais cette crainte que ce soit le dernier, chaque tournée pareil, et me voilà 60 ans après. Mon problème par rapport à l'écriture aujourd'hui, c'est que j'écris, malgré mon âge, des chansons pour l'adolescent que je suis resté. Et voilà, tant que je peux chanter, que ce soit les miennes ou d'autres chansons, je suis un homme heureux, quoi.
Vous voulez chanter jusqu'au bout? Vous ne vous fixez aucune date de retraite, entre guillemets?
Non, je ne me fixe pas de date. Je sais qu'elle se rapproche de plus en plus. Et encore une fois, je compte sur mon entourage, mes amis, ma famille, pour me dire si éventuellement je deviens pénible à écouter. Il faudra me pousser dehors, mais il faudra le faire à un moment donné.
Avec tristesse?
Bien sûr.
C'est triste, c'est triste.
In French Please, le nouvel album de Salvatore Adamo vient de sortir. Il est réalisé par Stéphane Escher. Il a des concerts prévus partout en France au Grand Rex à Paris le 18 octobre.
J'écris pour l'adolescent que je suis resté. C'est presque une morale de vie. On pourrait dire je vis aussi pour l'adolescent que je suis resté. Et c'est peut-être un bon conseil pour passer les années.
Moi, je veux bien les passer comme lui.
Et si vous voulez d'autres conseils, rendez-vous dimanche dans Laissez-vous tenter à partir de 9h15 puisque Salvatore Adamo sera votre invité, Steven.
Il est 13h.
RTL Midi.